découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Comment gérer, bien gérer la pratique de fée de brousse hein, plusieurs paysans recours au fée de brousse pour préparer les saisons culturelles. Pourtant, cette pratique est à la base de la déforestation lorsque le feu n'est pas bien géré. Et ce feu détruit des milliards d'hectares de forêts ainsi que des les écosystèmes. D'après les environnementalistes, ces feux peuvent être faits avant, on peut recourir à cette pratique avant la saison sèche, mais tout en respectant les normes. Djibril Bissambou, vous êtes spécialiste en forêt, bonjour.
Bonjour monsieur.
Alors, dites-nous comment bien gérer la pratique des feux de brousse pour préparer les saisons culturelles.
Comment bien gérer la pratique de feux de brousse pour préparer les saisons culturelles? Il suffit d'abord de connaître quel type de feu que vous allez faire. Les saisons culturelles, respecter la période et puis sensibiliser les gens par rapport à ce feu de brousse. Le feu a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage du feu, c'est quand vous mettez le feu à une bonne période, ça permet de lutter contre les mauvaises œuvres, ça permet de lutter contre les graines de mauvaises œuvres pour que vous puissiez préparer à la bonne culture que vous allez faire.
Voilà, le feu permet de lutter contre les mauvaises herbes. Voilà, c'est pour cela on recourt au feu pour lutter contre les mauvaises herbes et pour préparer les sols. Et c'est ça l'avantage. C'est le seul avantage que le feu a, ou bien il y en a d'autres?
Oui. Ça, c'est par rapport à la culture que j'ai pu donner, mais il y en a d'autres par rapport à l'élevage. Par rapport à l'élevage, le feu aussi a un avantage, parce que dès que vous mettez, vous avez des herbes tendres, et puis les bêtes vont brouter. C'est aussi parmi les avantages dans le cadre de l'élevage de gros bétail ou de petits bétails, quoi.
Donc, ça permet aussi
De rajeunir.
Oui.
De rajeunir les herbes pour que les herbes deviennent tendres et puis les bêtes vont bien péter ça.
Voilà. Alors, quels sont maintenant les désavantages que le feu de brousse présente?
Excusez?
Les désavantages que le feu de brousse présente aujourd'hui.
Les inconvénients?
Oui.
Oui. Le feu de brousse a plusieurs inconvénients. Je vais commencer d'abord par les désavantages par rapport à l'environnement. Le feu de brousse dégage, pollue d'abord l'air avec le... pollue l'air avec les aérosols. Le feu de brousse, quand vous mettez le feu, il y a les gaz à effet de serre, entre autres les CO2 qui est dégagé. Quand vous mettez encore, il y a l'absence de séquestration. Vous voyez, quand vous brûlez la forêt, il n'y a plus d'arbres. Car les forêts jouent un grand rôle dans la séquestration du carbone. Là, c'est sur le plan environnemental. Sur le plan du sol, il y a la destruction de la structure du sol, c'est-à-dire la matière organique du sol n'est plus là. Et puis, il y a l'alternance de la destruction des ports. Tout, il peut y engendrer des érosions. Il y a baisse de production agricole et puis il y a la perte de la fertilité. Là, c'est dans le cadre du sol. Et puis aussi, nous pouvons voir les dégâts dans les cadres socio-économiques. Il y a aussi des dégâts. Il y a les morts d'hommes, il y a destruction des maisons, il y a même destruction des bêtes. Voilà un peu quelques dégâts par rapport au feu de brousse.
Alors, comment maintenant utiliser à bon escient le feu de brousse pour éviter tout ce que vous venez d'énumérer?
Voilà. Comment utiliser le feu de brousse à bon escient? Il faudra d'abord commencer, il y a deux méthodes. Il faudra commencer à sensibiliser d'abord les gens par rapport à la période de feu de brousse, par rapport à la position où comment faut-il mettre le feu de brousse, par rapport au moment de la mise à feu. Et puis, il faudra maintenant arriver à les sensibiliser par rapport à la base juridique. Qu'est dit la base juridique congolaise des codes forestiers dans ses articles 55 à 64 qui nous parle de la gestion durable de feux de brousse. Voilà un peu ce qu'il faudra penser à faire, commencer à sensibiliser les gens sur la mise en feu, la période de mise en feu, quand est-ce faut-il mettre le feu et à quel moment faut-il mettre le feu.
Voilà, généralement c'est à quel moment, si on veut préparer la saison, à quel moment on peut commencer à mettre le feu.
Bon, ça dépendra des types d'activités que vous comptez faire. Si nous partons du côté l'élevage d'abord, il y a deux types de feu. Il y a le feu doux et le feu violent. Pour que le feu soit un feu doux, il faudra le mettre entre les 15 mai et les 15 juin. Là, c'est dans le cadre de l'élevage. Dans le cadre des champs, si vous voulez mettre le feu, vous devez le mettre à la fin du mois d'août. Et puis, associer tout le monde là où vous faites les champs, pour que chacun soit à ses côtés pour diriger ou bien lutter contre le feu, si le feu arrive à dépasser les milliers ou les milliers qui n'ont pas été prévus pour la mise en feu. Donc, je disais que le bon feu pour l'élevage se met entre le 15 mai au 15 juin.
Et pour l'agriculture, c'est fin août.
Oui, pour l'agriculture, c'est fin août. Parce que fin août, depuis septembre, parce qu'il y a déjà des tours de pluie, il y a un peu de l'humidité, et puis le feu ne sera plus un feu violent. Le feu va respecter l'étendue que vous aviez coupée. Et puis pour ça, il faudra faire les coupes-feu. Vous mettez votre champ, vous coupez votre champ. Avant de mettre le feu, il faudra faire les coupes-feu. Et puis quand vous mettez le feu, il faudra tenir compte de la direction du vent, commencer à mettre le feu des sens contraires du vent, et enfin mettre le feu à la direction du vent. Pourquoi? Parce que si vous mettez le feu à la direction du vent, le feu sera un feu violent. Mais tandis que si vous le mettez, vous commencez par les contrées, hein, il y aura le feu sera d'abord là, et puis vous remettez le feu du côté du feu violent, là maintenant ça va bien continuer, et puis il n'y aura pas de destruction de la forêt.
Voilà. Vous dites qu'il faut prévoir les coupes-feu. Alors comment est-ce qu'on prépare ces coupes-feu pour éviter que le feu ne déborde?
Voilà. Le coupe-feu se prépare comme suit. Là, nous sommes dans les cadres de champs d'abord. Vous faites le sous-bois, vous coupez votre champ, vous espacez entre la limite où vous allez faire votre champ et la forêt. Vous nettoyez à sec. Vous arrivez juste à mettre les sols de manière que le feu ne puisse pas traverser plutôt. On peut faire le coupe-feu de 3 à 6 mètres, c'est tout dépendant du type de forêt que vous avez. Et puis dans le cadre de l'élevage aussi, quand vous avez des pâturages à brûler, il faudra faire le coupe-feu. Le coupe-feu se fait 3 mètres avec un espace entre deux coupe-feu de 1 mètre pour faire 6 mètres. C'est-à-dire coupe-feu de 3 mètres, espace de 1 mètre plus un autre coupe-feu de 3 mètres. Le coupe-feu, l'espace de 3 mètres va permettre, si le feu dépasse le premier coupe-feu, ça va entrer dans l'espace entre les deux coupe-feu et puis ça ne partira pas pour aller dans la troisième partie qui est une savane en réserve.
Alors cette partie qu'on appelle coupe-feu, donc c'est une partie où on a enlevé toutes les herbes à ce moment-là et on ne retrouve plus que la terre, c'est ça? C'est de cette façon qu'on peut arrêter la progression du feu.
Bien sûr, vous avez bien compris, c'est-à-dire on nettoie, à ce que j'ai dit, on arrive jusqu'au sol avec le houe, le pelle. On fait l'ouverture de ces chantiers ou de ces layons, de manière que le feu ne puisse pas traverser. Une fois le feu arrivé là, le feu s'arrête à ce niveau-là.
D'accord. Nous avons un premier auditeur en ligne, Patient. Il nous appelle de Lubumbashi dans la province du Katanga. Nous parlons aujourd'hui de la gestion des feux de brousse avec Djibril Bissambou, spécialiste en forêt. Vous voulez participer, composez le 081-890-63-94.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Bien, Patient, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Oh, désolé, on a perdu, il n'est plus en ligne, il va certainement nous rappeler. Alors nous poursuivons avec notre invité Djibril Bissambou, spécialiste en forêt. Djibril, vous avez dit aussi qu'il faut tenir compte de la direction du vent. Pouvez-vous nous en dire plus?
Oui, tenir compte de la direction du vent, parce qu'avant qu'on mette le feu, il y a des histoires qu'il faudra tenir. Il faudra que vous ayez le feu et puis vous ayez le substrat. Le substrat c'est l'herbe et puis l'humide. Le vent, tenir compte de la direction du vent, c'est-à-dire, quand vous mettez le feu de la direction où le vent souffle, le feu ira très vite. Par contre, si vous mettez le feu à contre-vent, le feu ira au rythme du contre-vent que vous aviez mis sur place. Par exemple, nous sommes à Borobo, nous mettons le feu dans notre pâturage. Sur l'élevage, je prends l'exemple de Sogenac. Quand vous mettez le feu à contre-feu, c'est un feu fait tout. Mais quand vous mettez le feu de la direction du vent, c'est un feu plus violent qui peut engager beaucoup de dégâts.
Voilà. Et si un agriculteur veut mettre le feu, vous avez dit qu'il doit associer les autres agriculteurs pour qu'ils travaillent tous ensemble.
Bien sûr, c'est parmi les méthodes préventives. Vous faites les champs dans un seul côté. Vous mettez le feu, vous voulez mettre du feu, il faut sensibiliser tout le monde. Tous ceux qui ont les champs dans ces côtés-là. Pourquoi? Parce que prenons par exemple lui, il est arrivé à sa fin de faire son travail, il va mettre du feu pour cultiver. Mais l'autre, son voisin n'est pas encore prêt. Pour éviter aussi les conflits, pour que le feu ne dépasse pas, il doit associer son voisin. Il dit aujourd'hui, moi je vais mettre le feu dans mon champ. Allons-y, toi tu seras de ton côté, tu vas observer ou bien tu vas prévenir pour que le feu ne dépasse pas de ton champ. Alors, quand ils les associent, ensemble, ils peuvent faire les coupes-feux de manière que le feu ne puisse pas traverser. Une fois le feu traversé, maintenant, c'est la lutte active. La lutte active, on utilise le brassage, le bras des arbres pour lutter contre le feu une fois traversé. Voilà un peu, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faudra associer les autres agriculteurs pour que le feu aussi ne détruise pas la forêt, parce que la forêt, c'est la source de vie.
Voilà, il faut associer les autres agriculteurs. Mais vous avez dit que le feu détruit la structure même du sol. Alors pourquoi recourir au feu de brousse alors que ça détruit le sol?
Oui, recourir au feu de brousse, c'est un système, si je peux dire, un système qui date de nos ancêtres. C'est pourquoi que les agriculteurs actuels, les paysans, si je peux dire, utilisent le feu de brousse. Mais nous, avec la méthodologie actuelle que nous sommes en train de faire, avec le reboisement qu'on vient de faire à Bolobo, nous faisons des cultures intercalaires, mais nous ne brûlons pas. Nous labourons, nous laissons les herbes sécher, qui vont se dégrader à ce niveau-là, et nous mettons les cultures avec les herbes séchées, parce que là, la structure du sol ne va plus être détruite. Au contraire, il y aura un amendement du sol à base des herbes que nous avions faites.
Bien, nous avons un auditeur en ligne, Olivier de Kinshasa. Bonjour Olivier.
Bonjour, cher auditeur, bonjour, ingénieur Djibril. Ingénieur Djibril s'est beaucoup apaisé sur le feu de brousse, mais ne nous a pas dit qu'est-ce que le paysan poursuit en mettant le feu sur la brousse. Je voudrais qu'il nous explique un peu, et essaie un peu de vulgariser, puisque moi et lui, nous avions été à Bolobo dans une campagne de vulgarisation. Vous pouvez commencer par nous expliquer qu'est-ce que le paysan poursuit en mettant le feu sur la brousse, et nous donner quelques types de légumineuses peuvent compenser la richesse de l'humus en mettant le feu sur la brousse.
Pardon, vous avez dit quelques types de...
Des légumineuses, des plantes légumineuses que le paysan peut utiliser pour ne pas chaque fois utiliser le feu de brousse.
D'accord, merci. Fiston, vous êtes à Bukavu, au sud Kivu. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, c'est juste demander à notre invité de nous distinguer ce que lui entend par feu de brousse et agriculture thiobrili, parce qu'il semble mélanger les deux.
Feu de brousse et agriculture thiobrili.
Ouais.
D'accord. Ingénieur Djibril.
Oui, je vous suis.
Vous avez la parole.
Je commence par Olivier, je les salue en passant. J'ai dit, par rapport, les objectifs sont différents. Par rapport aux communautés locales, il y a des ceux qui mettent du feu seulement pour faire la chasse et de la quête. Il y a des ceux qui mettent du feu, là je parle dans les cadres de la brousse, pour faire des ouvertures de route,
oui.
Là où ils vont aller dans des champs. Il y a des ceux qui mettent du feu pour l'élevage, il y a des ceux qui mettent du feu pour faire les champs. Voilà, il y a plusieurs... type d'utilisation de feu par rapport aux communautés locales.
Bien, et sa deuxième question, quelles légumineuses les paysans peuvent utiliser pour ne pas tout le temps recourir au feu de brousse?
Bon, quel type de légumineuses que les paysans peuvent utiliser? Là, c'est dans le cadre de la forêt ou bien dans le cadre de la savane?
Bon, il n'a pas donné cette précision.
Je crois qu'il faudra, s'il faudra donner la précision, ça nous serait capital.
Et si c'est dans le cadre de la forêt, commençons par la forêt.
Dans le cadre de la forêt, actuellement, nous mettons le je vais me rappeler le nom de l'arbre, m'a échappé le nom scientifique là.
Mmh.
Oui. Et puis la deuxième question par rapport à celui de Lubumbashi, je n'ai pas retenu, si vous pouvez reprendre quand je suis debout là.
Oui, Fiston de Bukavu, il dit, vous parlez du feu de... quelle est la différence entre le feu de brousse et l'agriculture sur brûlis? Est-ce que c'est la même chose ou il y a une différence?
Il y a une différence.
Laquelle?
L'agriculture est une rente sur brûlis, c'est quoi? L'agriculture courante qui est pratiquée par les communautés locales. Ils labourent ou bien ils coupent les champs et puis ils mettent le feu là où ils ont coupé. Tandis que le feu de brousse, c'est le feu qui est mis pour... Prenons par exemple les exemples que j'ai donnés. On ne laboure rien. Un fumeur peut être des poissons, il met le feu, et puis la brousse se brûle, et puis la forêt se brûle. Là, on parle de feu de brousse. Tandis que l'agriculture itinérante sur brûlis, c'est une technique, une méthode de l'agriculture qui est courante en RDC. On coupe, on fait le sous-bois, on laboure, et puis on met le feu là où on labourait. Mais le feu, là, peut traverser... aller détruire la forêt, puis aller détruire la savane.
Voilà, donc pour les cas précis, on parle beaucoup plus du feu de brousse. Hein.
Pour les cas précis, on parle beaucoup plus du feu de brousse.
Voilà. Le feu de brousse, comment gérer rationnellement le feu de brousse? Vous avez dit qu'il faut, si vous voulez préparer la saison culturelle, il faut tenir compte de la période indiquée, c'est fin août. C'est à ce moment-là, pour les agriculteurs, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent recourir au feu de brousse. Et à l'aide de... et souvent, qu'est-ce qu'ils utilisent les agriculteurs quand ils veulent mettre du feu? Est-ce qu'ils utilisent les... je sais pas moi, quel produit pour allumer les feux? Avec une allumette seulement ou bien ils utilisent d'autres?
Il y a la paille qui est conçue en mode, en botte plutôt, on allume cette paille-là et puis on commence à mettre l'allumette et puis la paille. Il n'y a que ces deux éléments qu'ils utilisent souvent.
Voilà, ils utilisent ces deux éléments. Mais vous avez, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le feu de brousse a beaucoup plus des inconvénients que des avantages ou c'est le contraire?
Bien sûr, le feu de brousse a beaucoup plus des inconvénients par rapport aux avantages. Parce que tantôt, je viens d'énumérer les inconvénients du feu de brousse et les avantages. Vous aviez vu, je dis, par rapport à l'environnement, par rapport à la destruction des sols, par rapport même au socio-économique. Mais il a peu d'avantages et beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, nous parlons de pollution de l'air. Car si vous mettez le feu, il y a des aérosols qui se dégagent, il y a les CO2 qui se dégagent, il y a d'autres produits qui se dégagent, qui peuvent et puis qui contribuent à l'augmentation des gaz à effet de serre par rapport à la destruction de la couche d'ozone.
Voilà. Alors, il vaut mieux ne pas recourir au feu de brousse parce que ça présente beaucoup plus des inconvénients.
Bien sûr. C'est pourquoi je vous ai dit actuellement, nous sommes en train d'utiliser une autre méthode. Labourer, ne pas mettre le feu et cultiver en labourant directement. Vous coupez les arbres, vous coupez les herbes plutôt, vous labourez. Et puis vous cultivez sans pour autant mettre le feu. Là, vous fertilisez directement les sols, vous contribuez à l'amélioration de la structure du sol, et puis le rendement sera meilleur. Parce que dès que vous brûlez, il y a des cendres. Dès qu'il y a le vent, les cendres partent. Dès que les cendres partent, il n'y a plus rien. Il y a la destruction même des micro-organismes qui se trouvent dans les sols. C'est pourquoi nous conseillons à tout le monde de ne plus brûler, de couper, de labourer et de semer comme ça. Ça, c'est la meilleure des méthodes pour augmenter aussi la production.
Voilà, nous avons en ligne Arsène de Goma, dans la province du Nord Kivu. Arsène, bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Ok, ma préoccupation, évidemment, vous aviez déjà élaboré au terme des questions. Je suis dans le véhicule, j'ai commencé à vous suivre. Jusqu'à là, peut-être les questions que je vais poser, on a déjà posé ça, mais je demande, est-ce que au cas où on commence nécessairement... Donc, la culture, et il arrive à un certain moment, vous avez besoin soit d'effectuer les moyens de faire l'agriculture. Et vous dépendez vous-même personnellement, vous dites, moi, j'ai les champs et je vais nécessairement élaborer. On doit nécessairement contacter les environnementalistes pour éviter les dégâts. Parce que bon, je me souviens, à un certain moment, on était dans un village, il y a un monsieur qui s'est permis lui-même de faire ça par rapport à ce rendu compte qu'il y a des maisons qui ont été brûlées. Est-ce qu'on doit d'abord se contacter pour l'État? C'était ça ma question.
D'accord, merci. Christian Mayembe, vous êtes à Kalemi, bonjour.
Bonjour Jody et bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, moi je voulais aussi demander à l'invité que nous dit la loi sur ce sujet, parce qu'un jour je suivais un environnementaliste qui nous parlait de ça. Il nous disait que c'est réprimé par la loi, parce que si vous recourez dans la province de Maniema, précisément à Kasongo là-bas, les gens brûlent les forêts seulement pour les objectifs de chasser les animaux. Maintenant, ça fait mal et il y a des débordements à ce sujet. Maintenant, je voulais demander à l'invité qu'elle nous dit la loi, parce que lui n'a pas un peu abordé la loi à ce sujet. Merci, Jody.
Bien. Ingénieur Djibril.
Oui, je commence par la dernière question. Que dit la loi? Quand je dis, nous nous référons du code forestier à la disposition de la protection des forêts et plus précisément dans les articles 55 à 64. Là, on nous parle par rapport à la gestion du feu de forêt et feu de savane. La loi dit ceci.
Allô? Oui, allez-y, on vous écoute.
Oui. Dans ces articles, la loi dit ceci. Une personne n'a pas le droit de mettre le feu. Il est interdit de provoquer ou d'abandonner un feu susceptible de propager dans la forêt ou dans la brousse. Là, c'est l'article 57. Alors, l'article 58, il dit qu'il est défendu de porter ou d'allumer un feu en dehors des habitations et des bâtiments d'exploitation situés à l'intérieur des forêts. Tandis que l'article 59 dit tout feu provoqué et à maîtriser par son auteur, qui répond des dommages résultants de son fait conformément à l'article 758 du Code civil obligatoire. Tandis que l'article 60 dit qu'il est interdit d'allumer un feu dans un rayon de 500 mètres aux alentours des forêts situées dans la savane ou à bordure de celui-ci. Il est également interdit d'allumer en zone de savane un feu le long des routes et chemins qui traversent les forêts classées. Là, c'est la loi, le code forestier qui dit ça. Mmh. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme punition? Une fois aujourd'hui qu'on arrivait à arrêter le malfaiteur, dans l'article 100, directement dans le code forestier, l'article 149 dit ceci, que celui qui abandonne le feu sera puni d'une amende de 1 million de francs congolais et on peut l'arrêter pendant une année ou plus. Voilà un peu par rapport à la loi. Mais par rapport à la première question, si vous pouvez me rappeler, ça me sera capital.
La question d'Arsène de Goma, il était dans un village où quelqu'un avait mis le feu, des brousses, il y a eu des dégâts, le feu a débordé et les maisons ont été détruites. Alors il veut savoir, faut-il contacter un environnementaliste ou les services de l'État avant de mettre le feu de brousse?
Bon, la loi aussi dit ceci. Avant de mettre le feu de brousse, c'est le gouverneur de province qui donne les calendriers de feu de brousse, qui donne un arrêté, ou bien c'est le calendrier sera donné par l'administrateur du territoire de son entité décentralisée. C'est-à-dire, pas tellement un environnementaliste, mais c'est l'administration. Dans l'administration, il y a aussi les services de l'environnement, les services techniques de l'environnement, qui donnent des directives, et de celui de l'agriculture, qui donnent des directives par rapport à la gestion de feu. C'est-à-dire, il ne faut pas tellement contacter directement un environnementaliste, mais il faudra que les services de l'État, à travers l'administration provinciale et territoriale, et les services décentralisés, puissent faire les programmes de mise à feu de feu. Voilà un peu la réponse par rapport à la première question.
Bien. Adrienne nous appelle de Lubumbashi, dans la province du Katanga. Bonjour Adrienne.
Bonjour Monsieur Josie Daniel, bonjour aussi à l'ingénieur Djibril. J'avais des questions à poser. La première a été posée. J'ai eu une réponse à cela. Et j'aimerais aussi savoir, Monsieur Dupril, parmi les inconvénients que vous avez énumérés, quels sont les inconvénients les plus fréquents là chez vous à Bolobo? Merci, Monsieur Dupril.
Ok, merci. Les inconvénients les plus fréquents à Bolobo. Ah, il y a d'abord pollution de l'air, parce qu'il y a des aérosols qui se dégagent. Et il y a une ou deux ans, les maisons étaient brûlées, même de villages qui étaient brûlés, c'est-à-dire des dégâts sociaux, économiques, des maisons étaient brûlées. C'est parmi le plus fréquent, ce sont ceux-là. Pollution de l'air, destruction des savanes, destruction des forêts. Structuration du sol. Là, il y a maintenant la production, parce qu'il y a peu régulier, la production de culture de manioc a baissé. Voilà un peu les dégâts les plus fréquents par rapport à notre territoire de Bolobo.
Voilà, et le fait de brousse peut aussi occasionner les décès, la mort d'hommes.
Oui, bien sûr, c'est parmi les dégâts que j'ai bien cité. Le feu de brousse, on met le feu, prenons par exemple, quelqu'un ne savait pas, et a été à la direction du vent, et puis le feu violent, il ne va pas fuir. Le chien vient de ravager. Et puis le feu détruit des maisons, le feu détruit des bêtes.
Voilà, il faut toujours prendre des précautions avant de mettre du feu dans la forêt pour préparer la saison culturelle. Mais vous avez dit que ça présente beaucoup plus d'inconvénients, alors vaut mieux s'en abstenir et recourir à d'autres méthodes pour préparer le sol. Ingénieur Steve nous appelle des Kinshasa, il a une contribution. Ingénieur, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Nous parlons de la gestion rationnelle de la pratique des feux de brousse. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, bon, moi, en tant que gestionnaire de ressources naturelles renouvelables, à la question de savoir si le feu de brousse avait plus d'inconvénients ou d'avantages, je dirais simplement que le feu de brousse, en tant que gestionnaire de ressources naturelles, est un outil d'ingénierie écologique. Dans quel sens? Parce qu'il a été démontré que certains écosystèmes, comme la savane, la survie ou le maintien de cet écosystème dépend de la pratique des feux de brousse. Donc, si on stoppe la pratique des feux de brousse, la savane va disparaître. Parce que dans les systèmes, par exemple, où on a tenté le système de mise en défense, on a dit comme conséquence que la forêt a tendance à dominer sur la savane. Ce qui a pour corollaire que la savane et toutes les espèces où la biodiversité y dépendant disparaissent aussi. Donc ça, c'est une catastrophe écologique. Donc en tant que gestionnaire des ressources naturelles, le feu de brousse devrait être considéré comme un outil d'ingénierie écologique pour le maintien de ces écosystèmes. Merci.
Et ingénieur Steve, un moment, et comment, en quoi est-ce que le feu de brousse aide à maintenir la savane?
Bon, l'effet de brousse est de maintenir la forêt de la savane parce que ça permet de régénérer cet écosystème.
Voilà, et on doit placer les feux, mettre les feux par après combien de temps pour qu'il y ait régénération?
Bon, la pratique du feu de brousse au niveau de la savane devrait être, moi je le dirais, maintenue. Parce qu'à un certain niveau, la savane atteint le climax. Lorsque la savane atteint le climax, donc c'est un écosystème qui nécessite un certain renouvellement. Alors, elle est renouvelée par la pratique du feu de brousse. Donc, suspendre la pratique de feu de brousse auprès de savane entraîne ipso facto la disparition de cet écosystème s'il s'agit bien sûr d'une savane anthropique. Donc, mettre en défense la savane entraîne la dominance de la forêt sur cet écosystème qui est savane et la disparition de la biodiversité y dépendante.
D'accord, merci. Ingénieur Dibril, là, vous avez suivi l'ingénieur Steve. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce qu'il vient d'affirmer?
Bon, je dirais ceci. Le feu de brousse détruit aussi les écosystèmes. Dans quelle mesure? Quand vous mettez le feu de brousse, vous tuez même les insectes. Le feu de brousse détruisent d'autres espèces végétales. Le feu de brousse contribue aussi à la destruction du sol. Mais le feu de brousse peut être mis par rapport à plusieurs fins pour les éleveurs comme je l'ai dit, c'est pour la régénérescence, pour rajeunir les herbes et pour que les bêtes puissent manger. Tandis que, si vous laissez, vous me continuez à beaucoup mettre le feu de brousse, il y aura des arbres qui vont disparaître. Mais d'autres arbres, prenons par exemple l'Hymenocardia sida, c'est une plante qui est habituée à faire des brousses. Même si vous mettez le feu, il est toujours présent. Voilà un peu par rapport à l'inconvénient de faire des brousses. Nous disons que c'est pas mal.
Lui, il a parlé beaucoup plus de la savane. Il dit que la savane a besoin du feu de brousse pour sa régénération ainsi que les écosystèmes qu'on y trouve.
Oui. Pourquoi je disais oui, la savane, si vous mettez aujourd'hui, il y a d'autres espèces qui disparaissent si vous mettez le feu. Mais il y a d'autres espèces qui résistent. J'ai donné l'exemple de l'Hymenocardia sida. Vous partez à Borobo, là où le Sojena qui est en train de faire des élevages, ce n'est plus la savane aujourd'hui, c'est plutôt les Hymenocardia sida. Donc ce n'est plus bénéfique pour le Sojena. Tu veux continuer à faire ces élevages en pleine savane. Mais maintenant, comme il y a repousse des Hymenocardia sida, il y a une plante qui résiste contre le feu. Voilà là où il y a maintenant la perte par rapport à l'élevage.
Voilà, donc c'est alors on peut dire que c'est qu'il faut pas recourir tout le temps au feu de brousse même au niveau de la savane pour éviter tout cela, tous ces dégâts.
Oui, je disais il faut pas recourir quand vous faites les champs. Là on se limite, on se comprend. Mais dans les cas d'élevage, vous êtes obligé de recourir au feu de brousse pour que le bête puisse bien péter dans la saison qui vient.
Voilà. Et maintenant, par exemple, pour ceux qui font l'élevage ou ceux qui font la chasse, on a suivi tout à l'heure un auditeur c'est Christian Mahembe de Kalemi qui nous a dit que à Kassongo, par exemple, pour faire la chasse, certaines personnes recourent au feu de brousse et il y a beaucoup de dégâts qui s'en suivent. Alors, quelles sont les précautions que les chasseurs, par exemple, peuvent observer pour ne pas causer trop de dégâts?
Bon, je crois que c'est parmi le type de feu que j'ai énuméré. Les chasseurs peuvent mettre du feu pour faire la chasse. Les gens qui font les copas, c'est-à-dire les mamans qui vont aller pêcher pendant la saison sèche, mettent aussi du feu pour que, à la reprise des saisons des pluies, ils puissent accueillir les champignons et tant d'autres. Quelles sont les précautions qu'on faudra prendre? Il faudra sensibiliser les chasseurs par rapport au feu de brousse. Leur dire que les chasseurs ne sont pas autorisés à mettre le feu de brousse. Qu'est-ce que dit la loi par rapport au feu de brousse? Moi, je crois que pour chasser, il ne faut pas tellement toujours passer par le feu de brousse, non. On peut aussi faire des ouvertures de léons, des ouvertures de chantiers, de manière que les bêtes peuvent passer par des léons, et puis on chasse par des léons. Vous brûlez aujourd'hui 100 000 hectares, 200 000 hectares, et puis quand vous partez faire la chasse, vous abattez 2, 3, 4 animaux. Voilà ce que tu as fait comme dégâts, voilà ce que tu as gagné comme gain. 4 bêtes par rapport à 200 hectares de savane brûlée. Et puis, quelle est la quantité de COD que toi tu as dégagé dans la nature? Donc, c'est la sensibilisation des chasseurs, leur dit qu'ils ne sont pas autorisés de mettre le feu et de faire appliquer la loi.
Voilà, de faire appliquer la loi, mais est-ce que tous les paysans et tous ces chasseurs connaissent la loi? Est-ce qu'ils sont suffisamment sensibilisés?
Je dirais, nul n'est censé ignorer la loi, mais les communautés ne sont pas sensibilisées par rapport au code forestier, qui est un code de bureau. C'est pourquoi nous recommandons que le code forestier soit sensibilisé par tout le monde, que tout le monde connaisse le contenu du code forestier, la sensibilisation des différentes parties prenantes sur le contenu du code forestier.
Voilà, la sensibilisation est très importante, mais vous affirmez qu'elle n'est pas jusque-là bien faite. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour faire une bonne sensibilisation des paysans, des communautés qui sont aux environs des forêts?
Je disais, il faudra commencer par la sensibilisation. Prenons l'activité actuelle que nous faisons. C'est déjà une sensibilisation des différentes parties prenantes par rapport à la gestion rationnelle de feu. Il faudra utiliser d'autres voies, prenons par exemple les groupes folkloriques internes villageois, de manière qu'ils puissent sensibiliser les leurs par rapport aux causes forestières. Il faudra travailler avec des ONG nationales, locales et internationales dans cette histoire de la sensibilisation du code forestier par rapport à nos communautés locales, que chacun prenne sa charge à son niveau. Vous aussi du média, prenez votre charge pour la sensibilisation du code forestier, l'administration prenne sa charge, nous aussi les zones jetant locales, nationales, car nous sommes obligés de sensibiliser les communautés locales par rapport au contenu du code forestier.
Bien, ingénieur Djibril Bissambou, spécialiste en forêt, on va bientôt terminer cet entretien. Avant cela, nous allons accueillir un dernier auditeur, Ouchaï de Mahagi. Ouchaï, bonjour.
Oui, bonjour. Quel... Bonjour à tous les auditeurs de la géographie et à l'invité du jour.
Quelle est votre question, Ouchaï?
Je vais dire tout ce que disait l'invité par rapport à le désavantage et les convénients du fait de trousse. Si on n'est pas sensibilisé pour la bonne pratique de fait de trousse, moi, c'est de savoir comment vous pourrez monter le mécanisme pour faire atteindre toute la tige de la population qui ne savent rien de la pratique de fait de trousse, puisque jusque-là, chacun d'eux, on change de son manière. Merci beaucoup.
Voilà, Ouchaï nous dit à Mag, chacun brûle le champ de sa manière, les paysans ne sont pas suffisants, ils ne sont pas sensibilisés par rapport aux dégâts que causent les feux de brousse. Ingénieur Djibril, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Les communautés locales ne sont pas sensibilisées, car le code forestier dit ceci, et c'est l'administrateur du territoire qui fait le programme de mise en scène. Le service de l'agriculture, qui sensibilise à travers aussi le service technique de l'environnement, qui doit sensibiliser les communautés locales par rapport aux faits. Il y a des dégâts, les communautés elles-mêmes le voient, il y a des dégâts. Alors, comme il y a des dégâts, que faut-il faire? Il faudra faire une autre activité. Prenons par exemple, au lieu de mettre le feu, on fait les champs sans pour autant les brûler et puis on les cultive. Voilà un peu ce que nous devons faire, que chacun prenne conscience, que chacun contribue d'une manière ou d'une autre dans les cadres de la sensibilisation sur la gestion du feu et puis dans les cadres de la protection de nos forêts.
Bien, merci ingénieur Djibril Bissambou, spécialiste en forêt. Bonne journée.
Merci, pareillement.